Association, économie, culture, actualité, emploi, sport, loisirs, social, santé. Radio Bulle vous donne la parole dans la quotidienne avec Ophélie. Tous les jours, du lundi au vendredi, à midi sur le 93.6. Radio Bulle, c'est votre radio de la jeunesse.
93.6, Radio Bulle, c'est votre radio de la jeunesse. C'est Ophélie et je suis ravie de vous retrouver sur le 93.6 pour une nouvelle émission. Les amis, il y a quelques temps, je suis allée faire un tour du côté du lycée Bernard Palissy à Agen pour rencontrer des élèves de seconde qui depuis plusieurs mois travaillent sur le projet Élève ton blob. C'est le CNRS et le CNES qui ont proposé à des élèves de toute la France de mener des expériences scientifiques avec un blob et en parallèle, ces mêmes expérimentations étaient conduites à bord de la Station Spatiale Internationale, l'ISS, par Thomas Pesquet. Un projet encadré au lycée Bernard Palissy par Thierry Maire, Valérie Lachambre et Christelle Micheli. Et aujourd'hui, ces élèves sont venus faire un petit tour dans les studios de Radio Bulle pour nous en parler, pour nous parler de ce beau projet. Il y a Samuel, Ilan, Enzo et Maxime avec moi. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Alors vous n'êtes pas que quatre dans votre groupe, vous êtes un peu plus et on aura d'autres élèves tout à l'heure. Ils sont en train de patienter à l'extérieur du studio parce que le studio est trop petit, malheureusement. J'ai pas fait d'erreur dans la présentation du projet.
Non.
C'est tout bon ?
Tout va bien.
Donc, comment vous a présenté ce projet au début, ce projet initial, en collaboration avec le CNES et l'ISS ?
Au début de l'année, on a reçu des blobs du CNRS, c'est le Centre National de Recherche Spatiale, pour participer à un projet expérimental qui s'appelle « Élève ton blob ». Plein de lycées y ont été conviés, et au lycée Bernard Palissy, trois classes ont participé. On devait effectuer plusieurs expériences. Il y avait celle d'exploration, où le blob n'avait aucune source de nourriture et était posé sur de la gélose. Il y en avait une deuxième, c'était celle d'exploitation, où le blob avait quatre sources de nourriture, ici des flocons d'avoine, placés à même distance du blob sur les points cardinaux. Et en parallèle, ces expériences ont été menées par Thomas Pesquet à bord de l'ISS. À la fin de nos expériences, on a déduit des résultats qu'on a envoyés à Thomas Pesquet pour analyser les résultats.
Ok. Donc ça, c'est le projet initial et en fin de compte, ça a évolué d'une autre manière. C'est bien ça ?
Oui.
On a décidé, quelques élèves des classes ont décidé de poursuivre les expériences sur le blob. Nous, dans notre classe de seconde 7, on est 4. On était plutôt intéressés par cet organisme et on a décidé d'effectuer d'autres expériences supplémentaires, de faire du brainstorming, de trouver des idées afin de faire d'autres expériences et en apprendre plus sur le blob.
Ouais. Et je crois qu'il y avait une petite déception au début par rapport au fait que c'est ce que vous m'avez dit la première fois qu'on s'est rencontrés. En fin de compte, il n'y avait pas vraiment de lien avec l'ISS. Vous avez envoyé les résultats, mais il n'y a pas vraiment de retour, quoi.
C'est vrai, pas faux.
Oui, on a envoyé les photos, on a envoyé également les rapports, mais au final, on n'a pas eu beaucoup trop de réponses, ni même de... On n'a pas reçu de remerciements, je crois. Non plus.
On a reçu les résultats et ces résultats, les résultats des expériences qu'a mené Thomas Pesquet étaient très proches de ce qu'on avait fait nous.
Oui.
Et la seule petite différence notable, c'est que le blob avait plus tendance à se développer vers le haut en raison de la différence d'apesanteur, certainement, alors que nous, non. Mais c'est tout ce qu'on a reçu en termes de résultats que nous n'avons pas fait.
Mais malgré tout, vous avez souhaité continuer ces expériences, ce projet,
oui.
De votre côté. Pour pouvoir faire des... Ce que vous me disiez la dernière fois, c'est une certaine liberté de pouvoir tester des choses, tester des expériences, faire
des essais. On a l'impression d'être des scientifiques.
On n'est plus limité à une seule observation dans des boîtes de Petri. Là, on peut essayer d'autres choses, mettre le blob dans de nouveaux environnements.
Et on va en parler de ces expériences, mais avant ça, qu'est-ce que c'est qu'un blob ? Vous pouvez nous expliquer à nos auditeurs ce que c'est que ce fameux organisme autour duquel vous avez travaillé.
Alors, un blob, c'est assez atypique. C'est un être vivant qui est composé d'une seule cellule. On appelle ça un être vivant unicellulaire. Et cette seule cellule va opérer toutes les fonctions nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme du blob. il est tellement rare et unique en son genre qu'il n'est pas vraiment catégorisé dans les trois familles d'animaux, d'êtres vivants qu'on connaît. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire animaux, végétaux et champignons. Lui, le blob, il a des points communs avec chacune de ces familles. Par exemple, il se nourrit à peu près comme un animal. Il ressemble à un végétal et a un mode de reproduction similaire à celui des champignons, avec des spores. Mmh. Il peut aussi se reproduire, comme on l'a vu en laboratoire, en étant coupé et divisé. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a été coupé, chacune des parties du blob va se régénérer, cicatriser, et va devenir indépendante, avoir son propre organisme et fonctionnement unique à elle.
Et vous connaissiez le blob avant ?
Oh oui, grâce à la culture G, enfin, c'est grâce aux réseaux sociaux, ouais. Aux journaux, c'est juste un coup d'œil, mais
c'est un organisme assez passionnant en fin de compte.
C'est
tout
vrai.
Tout ce que tu as décrit là, c'est assez impressionnant.
Oui.
Vous êtes d'accord avec ça ? Qu'est-ce que vous en pensez de cet organisme là ?
Ben moi, je trouve qu'il a des capacités assez impressionnantes. Mm-hmm. Surtout le fait qu'on puisse le couper à l'infini. Et le fait qu'il ne meurt pas à proprement parler, il se divise. Et ça ne change rien à son fonctionnement habituel. Il cicatrise très vite et il peut continuer comparé à d'autres êtres vivants. Oui. Comme nous, si on nous coupe un bras, ça va être difficile de pousser.
Il ne vit pas tout seul comme ça. Il ne continue pas à vivre. Ça fait un peu peur d'ailleurs, un organisme qu'on coupe et qui continue à fonctionner.
Ça fait pas si peur que ça. Il est assez limité. Par exemple, il a besoin de beaucoup d'humidité pour pouvoir se déplacer. Si jamais c'est un environnement trop sec, il va s'endormir. Mm-hmm. Il va se rétrécir et s'endormir. Donc du coup, il n'y a pas besoin de s'inquiéter.
Alors avant de parler des expériences que vous avez réalisées, donc en dehors du projet Élève ton blob, donc dans la continuité de ce projet-là, on peut revenir un petit peu sur vos résultats par rapport aux expériences que vous avez faites dans le cadre de Élève ton blob.
Oui, donc la première qu'on a menée, celle d'exploration, on a observé que le blob, il a mis presque une journée à se réveiller et commencer à se déplacer. Puis deux autres journées pour faire la totalité de la boîte, pour voir s'il y avait de la nourriture, il a essayé d'en chercher. Et comme il n'en a pas trouvé, il s'est endormi un jour avant la fin de l'expérience. Donc nous on sait que le blob a besoin de nourriture pour qu'il puisse se développer et continuer à vivre. Donc on en a déduit que son environnement où il n'y avait pas de nourriture, c'était pas idéal pour lui, et que c'était pour ça qu'il s'était rendormi. Dans la deuxième qu'on a faite, celle d'exploitation, on a observé que le blob il a aussi mis une journée à se réveiller et a commencé à se déplacer en plusieurs branches. Lui, il s'est découpé et il a exploré toute la boîte pour trouver la nourriture qui était présente. Le lendemain du début des expériences, on a une des branches qui avait atteint un des flocons d'avoine. Puis les trois jours suivants, ils ont atteint tous les flocons d'avoine et ils sont commencé à se redévelopper à partir de ces flocons d'avoine pour voir s'il n'y en avait pas d'autres.
Okay.
Donc on sait que tant que le blob il a de la nourriture, il ne se rendort pas. Et à la fin de notre expérience, il n'était pas rendormi. Du coup, on a dû le rendormir artificiellement.
Comment vous avez fait ça ?
On lui a enlevé la nourriture.
Ah oui, tout simplement.
On l'a privé d'humidité et de nourriture.
Ok, c'est barbare.
Il est facile à arrêter.
Oui.
C'est pour survivre. Et justement, c'est ce qui fait que sa durée de vie est assez longue. Il peut se mettre dans un état de dormance pendant plusieurs années. Ça peut arriver jusqu'à des dizaines d'années. Il peut se réveiller un moment en étant humidifié.
Ok. Alors, vous avez donc réalisé des expériences autour et avec ce fameux blob. C'était quoi la première expérience ?
La première expérience consistait en deux parties à utiliser un labyrinthe.
Ouais.
On a créé deux labyrinthes identiques grâce à des briques de Lego. Et on a placé le blob et des flocons d'avoine aux deux extrémités du labyrinthe. Il faut savoir que on a fait quelques erreurs.
Oui.
Le blob était trop faible pour aller directement jusqu'à l'objectif, qui était les flocons d'avoine.
Oui.
Il n'avait pas assez de force. Et d'ailleurs, l'un d'eux s'est endormi.
Mm-hmm.
Il n'avait pas assez d'humidité. Donc du coup, Ce fut un fiasco dans les deux cas, mais on a fait quelques petits changements. Et,
Comme quoi ? Vous l'avez nourri ? Enfin, vous lui avez redonné de la force, peut-être ?
Oui, oui. On lui a mis plusieurs points de flocons d'avoine pour qu'il puisse avoir un peu plus de chance d'arriver jusqu'à la fin du labyrinthe.
Ok. Et il y a eu une expérience juste avant ça, sur les déplacements sur différents types de supports. C'est bien ça ?
Oui, c'est ça. On a voulu savoir si le blob il pouvait être capable de se déplacer sur différents supports. Donc on l'a fait une première fois, une première expérience, on a mis 5 supports. Le bois, le plastique, on a mis des Legos, le sable, la paille et un témoin qui se déplaçait uniquement sur du papier filtre. Bon, ben là, ce fut un échec complètement cuisant. Les blobs, ils s'étaient pas du tout développés, ils s'étaient tous rendormis, parce que les blobs, ça meurt pas, ça se rendort quand il n'y a plus de nourriture. Du coup, on a réduit notre nombre de supports, en enlevant la paille et le sable qu'on a trouvé pas assez pertinents. Et on a, pendant 5 jours, réhydraté tous les blobs, dès qu'on le pouvait.
On a vu que sur le support comme l'écorce, le blob se développait très bien, et ne se rendormait pas. Alors que sur le plastique, donc ici les Legos, il ne s'est presque pas développé et s'est rendormi. On sait que pour le développement propice au blob, il lui faut un environnement qui soit humide.
Oui.
Nous savons également que l'écorce est un de ses milieux naturels et qu'elle absorbe l'humidité, contrairement au plastique et les Legos. Et on a supposé que le blob ne peut se développer sur un milieu non humidifié.
Et du coup, l'expérience avec le labyrinthe, c'est arrivé après ?
Oui, c'est ça, on l'a réalisé. On a réalisé les expériences à peu près en même temps.
Okay.
Mais c'était à peu près en binôme ou en petit groupe et on s'est chacun occupé d'une expérience.
Au sein du projet, on s'est divisé en plusieurs groupes et chaque groupe a trouvé un objectif, une expérience à réaliser. Et on l'a fait chacun de notre côté. Elles ont été lancées à peu près en même temps, mais on n'a pas continué les supports très longtemps comparé au labyrinthe qu'on a vraiment tenu longtemps.
Bon, bah merci beaucoup à tous les quatre.
C'est un plaisir.
Merci à vous.
Merci Maxime, Enzo, Ilan et Samuel. On continue de parler du blob et des expériences que vous avez faites dans un instant avec vos camarades qui arrivent. Ils sont en train de patienter à l'extérieur du studio. Donc je rappelle qu'on parle du projet Élève ton blob, enfin un peu plus que ça, de toutes les expériences que vous avez réalisées autour des blobs. On a parlé d'une expérience avec un labyrinthe et on va continuer d'en parler dans un instant parce que tes camarades, Samuel, de ton groupe, donc, y ont participé. Allez, on se retrouve dans un instant, les amis, restez avec nous, on fait une petite pause musicale.
Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió, o que me lo invento. Así es que se dio, yo tenía mi bebé. Canciones en mi mente y él me lo notaba. Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada.
Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionero y como ya viene se te va. Será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve. Siempre quiere más, puñaladita. Está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor.
Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene, se me va. Yo sé que será. si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera. Se me fuera y ya desaparezca. Yo aún no aprendí la manera.
No hay manera que desaparezca. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene se te va.
Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar.
93.6, c'est la quotidienne sur Radio Bulle, votre radio de la Genève avec Ophélie.
Radio Bulle, c'est votre radio de proximité. Aujourd'hui, on vous dit tout sur le projet Élève ton blob, un projet proposé par le CNRS et le CNES à des élèves de toute la France. L'objectif, mener des expériences scientifiques avec un blob. Et en parallèle, ces mêmes expérimentations étaient conduites à bord de la Station Spatiale Internationale par Thomas Pesquet. Un groupe d'élèves du lycée Bernard Palissy a joué le jeu, a participé à ce projet et a voulu continuer et proposer leurs propres expériences. On en parle aujourd'hui avec Titaïna, Pierre, Colin, Clémentine et Alizée. Alors, petite question piège, hein, désolé, c'était pas prévu, mais est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots ce que c'est qu'un blob pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre et qui connaissent pas du tout cet organisme ? En quelques mots, vraiment brièvement.
Un blob, c'est composé d'une seule cellule. Un homme est composé de milliers de cellules et un blob est composé d'une seule cellule. C'est jaune. Mmh. Et ça vit dans la forêt principalement, dans un milieu humide et en obscurité. Ouais. En fait, on a fait des expériences dessus parce qu'on a beaucoup de mal à savoir exactement ce que c'est comme animal ou c'est un animal ou pas. Et du coup, on recherche un peu quelques informations sur lui pour voir ses comportements, etc. Et on apprend beaucoup de choses.
Ouais. C'est pas il n'est pas catégorisé comme animal, ni végétal, ni champignon, c'est un peu de tout.
C'est ça.
Alors, et du coup, vous avez réalisé une expérience, désolée hein, pour cette question piège, mais c'est pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, c'est très important de leur rappeler ce que c'est. Donc, vous avez réalisé des expériences, notamment une dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, une expérience avec un labyrinthe. Pierre et Colin, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est ?
Alors oui, on a effectué une première expérience avec les labyrinthes, et ça a été un échec.
Ouais.
Du coup, on a fait des ajustements dû à ça. Le premier, c'est qu'on a rajouté plusieurs sources de nourriture tout au long du trajet, parce qu'il y avait le blob qui avait plus, entre guillemets, d'énergie pour continuer à avancer, et il s'est arrêté en mi-chemin. Mm-hmm. Donc on a rajouté plusieurs sources de nourriture, et il a pu continuer. Ensuite, on a changé le support de base, c'est-à-dire qu'avant, on avait du papier, et on est passé à de la gélose. Donc la gélose, c'est de l'eau et de l'agar, et ça forme une sorte de support, quoi. Et parce que le papier, ça avait créé des moisissures sur le support, et en plus, il y avait le papier qui avait séché. Mm-hmm. Donc voilà. Ensuite, il y avait un problème avec le manque d'air, parce qu'on avait mis un film plastique tout autour, et il n'y avait aucun air qui était passé au-dessus, enfin, dedans l'espace. Donc le blob, il manquait d'air. Donc dû à ça, on avait juste mis du papier au-dessus, et on a pu le papier, il permettait que l'air passe quand même, mais à faible intensité, parce que trop d'air tue le blob.
Et il tue pas le blob parce que le blob, il s'endort, c'est ça ? Il peut résister, c'est ce qu'ils m'ont dit tout à l'heure, il peut survivre pendant 5 ans, enfin il peut rester endormi pendant 5 ans. S'il n'a pas assez de nourriture, pas assez d'eau, pas assez d'air, il s'endort juste. C'est bien comme protection.
Et du coup, après, le papier aussi, il empêchait aux champignons qui étaient dans l'air de tomber et de se déposer sur un support qui crée des moisissures. Quoi.
Ok. Merci.
Donc, grâce à ces ajustements, on a pu atteindre l'arrivée du labyrinthe.
Ouais.
On a remarqué que pour chaque labyrinthe, le blob s'est divisé en deux pour pouvoir atteindre l'arrivée plus facilement grâce à ces cellules qui ont permis d'atteindre la nourriture.
Oui.
Donc, ils trouvaient le bon chemin à chaque fois pour toutes les expériences, le blob il est arrivé à destination. Et voilà.
Pour chaque option qu'il y avait, enfin il y avait un passage, il y avait le côté avec l'impasse et le côté le bon chemin. Et c'est à ce moment-là où il se divisait. Mmh. Et du coup, en soi, il perdait une partie de lui-même à chaque fois. Mais aussi, il arrivait à trouver le bon chemin et donc se rapprocher de l'arrivée. Donc on peut formuler l'hypothèse qu'il a une certaine stratégie, même dans la nature, où à chaque fois, il se divise pour trouver son objectif, quoi. Mais ça reste une hypothèse, on n'est sûr de rien encore.
Mmh. Et du coup, il se divise, il ne se réunit pas après.
Non.
Enfin, ça devient deux entités différentes.
Oui, voilà, ça devient deux entités différentes et à chaque fois, il perd une partie de lui-même.
Ok.
Mais c'est pour au final trouver, réussir son objectif, donc...
Manger.
Voilà. Ouais, voilà.
Il se multiplie, il peut se multiplier à l'infini, en fait.
Oui, oui, c'est ça.
Mais à chaque fois, il répétisse.
Ok. Donc ensuite, il y a eu une autre expérience de tentative de coloration du blob. Et là, c'est toi, Titaina, qui a fait ça.
Oui. Alors en fait, au début, quand j'ai vu ce que c'était qu'un blob, j'ai vu qu'il avait une couleur très jaune vif. Mm-hmm. Et je me suis demandé si on pouvait en faire quelque chose de cette couleur. Et du coup, j'ai voulu le faire changer de couleur avec deux types d'éléments. Des éléments naturels ou chimiques. Donc j'ai pris des légumes, la carotte et la betterave. Parce que la carotte a beaucoup de carotène, tandis que la betterave a la bétanine, ce qui fait donc leur couleur orange et violette. Et à côté, donc, pour le chimique, j'ai pris du colorant, qui est donc évidemment totalement industriel. Mmh. Du coup, au début, j'ai mis en place une première expérience avec 8 boîtes, dont 4 sur du papier. Mais là, ça n'a vraiment pas marché parce que le papier, en fait, avait été touché un peu par tout le monde et ça avait été beaucoup contaminé. Du coup, le blob n'avait pas vraiment pu se développer. Même si on a pu remarquer sur les boîtes que le blob avait un léger penchant sur la carotte parce qu'il était légèrement un peu plus développé que pour les autres. Mais ce n'était rien de sûr. Ensuite, du coup, vu qu'il y a eu un grand échec sur cette expérience, j'en ai mené une deuxième. Cette fois-ci qu'avec de la gélose. Et j'ai mis la carotte, la betterave et le colorant soit à l'intérieur de la gélose, sur son milieu, ou alors, et aussi avec le flocon d'avoine, pour voir s'il changeait de couleur, où est-ce qu'il prenait sa couleur. Mmh. Et là, on a eu quelques résultats. Au début, donc, j'avais deux témoins pour comparer les expériences, les résultats. Et les éléments qui étaient à l'intérieur de la gélose... j'avais remarqué qu'avec la betterave n'a vraiment pas du tout aimé d'être mélangée avec de la gélose.
Ah oui?
C'était même plus gélifié, c'était mi-liquide, mi-géleux, c'était okay. Vraiment bizarre. Mmh. Et par contre, avec le colorant vert et la carotte, ça avait beaucoup mieux fonctionné. Avec la carotte, donc j'ai pris du jus de carotte, le blob était partout sur la boîte, il était... Comment expliquer, vraiment, il aime bien la carotte. Mmh. Et le colorant vert, il, un peu moins, c'était normal, on va dire. Et quand j'ai mis la carotte, la betterave et le colorant sur le flocon d'avoine, donc sa nourriture préférée, là, j'ai eu d'autres résultats. Alors, j'ai remarqué déjà que, bon, évidemment, la betterave, toujours pas, il n'a pas du tout aimé, il évite à tout prix la betterave. Mais après, pour la carotte, il s'était vraiment beaucoup développé, il allait partout, il adorait la carotte. Alors qu'avec le flocon d'avoine qui était imbibé de colorant vert, il cherchait plutôt à faire des chemins principaux pour relier plusieurs nourritures. Et j'ai vu qu'il en était ressorti vert.
Ah.
Alors du coup j'étais contente, je me suis dit c'est cool, maintenant il est vert. Alors du coup j'ai voulu essayer de voir s'il pouvait garder sa couleur ou oui. Trouver une explication à ça. Et quand j'ai pris ce blob et que je l'ai mis tout seul, sans colorant, il est redevenu jaune. Et en fait, j'ai compris que c'était parce qu'il venait, entre autres, de prendre un bain de colorant. Mm-hmm. Et du coup, il en ressortait vert.
C'est pas parce qu'il l'a...
ingéré, non. Ingéré, c'était ouais. Parce que je pense qu'il a touché le colorant et mm-hmm. Du coup, il en est sorti vert.
Très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette expérience de coloration du blob ?
serait dommage, j'aurais été bien qu'il aurait pu changer de couleur, mais c'était quand même intéressant de voir qu'il aimait la carotte ou qu'il pouvait quand même prendre temporairement une couleur.
Ouais. C'est trop intéressant, c'est cool qu'il soit devenu vert parce que ça aurait été un peu frustrant sinon.
Oui.
Ensuite, bon, c'est ça aussi le principe de la science et des expériences, c'est qu'il y a des échecs. Et vous l'avez dit plusieurs fois aussi, il y a eu pas mal d'échecs tout au long de ces expériences. Ensuite, il y a eu une expérience autour des préférences alimentaires du blob.
Oui, donc avec Clémentine, on a voulu savoir si le blob il avait des préférences alimentaires autres que le flocon d'avoine, parce que durant le projet initial, on l'a exclusivement nourri avec du flocon d'avoine. Du coup, on s'est mis dans un grand bocal pour mettre tous nos ingrédients, mais on avait ensuite de place. Du coup, on a broyé les ingrédients et on les a découpés pour qu'ils soient à la même distance les uns des autres, à la même distance du blob. Comme ça, le blob, il n'avait pas de préférence de distance pour les ingrédients. Pour le choix des ingrédients, c'est d'abord tourner vers des sucreries comme le chocolat, pour voir si, comme nous, il aimait ça. Mm-hmm. Du coup, bon, ça a été quand même un plaisir à l'amener à l'atelier. Ensuite, on a décidé de voir s'il aimait la viande. Du coup, on a pris une cuisse de grenouille. Enfin, d'abord, on a pris du saucisson, parce que c'est ce qu'on préfère. Sauf qu'en fait, c'était très difficile à découper en petites tranches. Enfin, c'était difficile à mettre dans le bocal. Du coup, on a dû prendre de la cuisse de grenouille. Et là, c'était pas la même histoire. Enfin, l'odeur, elle était infâme. Mais on a fait avec.
Elle était pourrie.
Ensuite, comme autre viande, on a pris de la punaise. Parce qu'il y en a l'un d'entre nous qui était envahi de punaise. Du coup, il était content d'en amener. mais du coup, on a dû les broyer. Donc, l'odeur, c'était pas très agréable. Et on a aussi décidé de lui donner des légumes pour voir si, comme nous, il mangeait 5 fruits et légumes par jour. Donc, on a pris les mêmes légumes que pour l'expérience de Titaena où elle colorait son blob. Oui. On a pris donc de la carotte et de la betterave.
Donc, on sait qu'il n'aime pas la betterave.
C'est ça. Mmh. Mais nous, en fait, on a fait en même temps que Titaena. Oui. Du coup, on n'avait pas encore les résultats. Mmh. Du coup, tous ces ingrédients-là, ils étaient disposés sur un papier humide, comme pour l'expérience du labyrinthe. Sauf qu'on a eu les mêmes problèmes. Il n'y avait pas assez d'humidité. Du coup, le papier, il est devenu vite sec. Donc, sur notre bocal, on avait un papier, mais les bactéries se déposaient dessus et c'était pas top pour l'expérience. Du coup, on a décidé de mettre un film plastique, mais à ce moment-là, on a eu un problème d'humidité parce qu'il y a eu de la condensation. Et du coup, ça a fait que la cuisse de grenouille, déjà qu'elle était infâme, là, c'était encore pire. Et on a eu des bactéries qui sont développées. Bon, contrairement aux autres, on a été relativement ignorés par les bactéries.
Oui.
Mais quand même, ça a été un problème pour nous. Du coup, pour régler ça, on avait décidé de mettre des cotons-tiges avec un papier. Mais pour notre expérience, on ne l'a pas fait. On a quand même gardé le film plastique. Mais comme support du blob, on a mis la gélose pour que ça soit humide quand même. Mm-hmm. Après, du coup, on a pu obtenir des résultats pour ses préférences alimentaires au blob. Donc, lorsque le blob faisait beaucoup de réseaux et restait sur un ingrédient, on disait qu'il aimait ça.
Oui.
Du coup, on a eu tout d'abord, donc le premier résultat, c'est qu'il n'est pas du tout la viande. Il a évité la cuisse de grenouille et la punaise. Bon, on s'en était douté vu l'odeur. Aussi, le chocolat, il n'est pas allé plus que ça dessus. Je pense que c'était un peu trop sucré pour lui, peut-être. Mm-hmm. Il n'est pas également allé sur la betterave, comme on l'a vu avec l'expérience de Titaena. Il a totalement évité la betterave. À notre grande surprise, il a fortement aimé la carotte. Il a fait beaucoup de réseaux là-dessus et il a même plus que le flocon d'avoine.
Ah oui,
il en a fait comme à son habitude, mais là, vraiment, la carotte, ça a vraiment été une grande surprise pour nous.
Mmh. Avec les résultats qu'on a eus par rapport à la grande boîte, on a décidé de lancer des spécialisations, entre guillemets, avec d'un côté une boîte avec juste de la punaise et de l'autre de la carotte, juste de la carotte. Et du coup, la punaise, c'était pour voir s'il aimait vraiment pas ça ou c'était juste parce que comme il y avait plein d'autres choses... c'était pas son premier choix. Mmh. Et la carotte, c'était pour voir si vraiment il aimait ça et que c'était sa préférence. Mmh. Qui préférait ça au flocon d'avoine. Dans la boîte avec la punaise, il a fait tout le tour de la boîte pour chercher de la nourriture. Et du coup, on est venu à l'idée que pour lui, la punaise, c'était pas une source... d'alimentation, enfin, qu'il pouvait pas manger ça, que ça n'avait pas parti, que c'était pas quelque chose de comestible pour lui. Et on a fait une autre expérience où on a mis du coup de la carotte et des flocons du coup pour voir toujours entre les deux lequel il préférait. Et il est allé vers la carotte sans porter d'attention aux flocons du coup.
C'est intéressant. Est-ce que vous avez, dans les autres expériences, vous avez réutilisé la carotte, est-ce que vous avez pu ou pas du tout?
Oui. Oui, après on a fait les courses des blobs et on a aussi utilisé la carotte, on a eu différents résultats.
Alors du coup, est-ce que vous pouvez me parler de cette fameuse expérience de la course des blobs? Donc on sait maintenant qu'il y avait le flocon d'avoine et la carotte.
Oui, alors du coup, on avait 8 boîtes différentes contenant chacune un blob. Et en fait, chaque blob est attribué à une équipe. Donc on avait 4 équipes de 2 blobs. Et en fait, dans chaque équipe, il y avait un qui avait la carotte et un qui avait le flocon d'avoine. Et on voulait voir qui du flocon d'avoine ou de la carotte était arrivé en premier, en fait. Du coup, on avait donc 4 boîtes identiques pour faire statistiques. Et il y avait de la gélose qui faisait une sorte de petit chemin avec pour point de départ le blob et le point d'arrivée, la source de nourriture. Et on a eu différents résultats dès les premiers jours.
Ça a été très rapide. Oui. Du coup, c'était quoi les résultats?
Y a une boîte où le flocon, il est arrivé à la... Enfin, le flocon, le blob, pardon. Le blob, ouais. Il est arrivé... à la moitié du chemin, enfin il a progressé très vite et le lendemain il était sur le flocon. Ça c'est pour une des boîtes, enfin la première
pour le premier blob de la première équipe et deuxième blob du coup avec la carotte de la première équipe ne s'est pas du tout attardé sur la carotte, il a fait demi-tour en fait, il est resté un peu sur place parce qu'il y avait le bord de la boîte donc il pouvait aller très loin et il est resté sur place, il n'est pas jeté un seul regard, entre autres, vers la carotte. Donc celui qui était le plus attirant pour le blob, c'était le flocon d'avoine pour la botte 1.
D'accord. C'est étonnant par rapport à ce que, par rapport à l'expérience sur les préférences alimentaires.
Mais après, on a eu d'autres boîtes.
Oui.
Et Alizée va continuer sur la boîte 2.
Oui, donc la boîte 2 ou l'équipe 2. Le soir, donc dès le premier soir, l'été était à mi-chemin. À égalité, on va dire, vers le flocon d'avoine ou vers la carotte. Mais le lendemain matin, le blob donc, de la carotte, il était allé vraiment sur la carotte. Il s'est concentré entièrement dessus. Mais le blob du flocon d'avoine, il a fait demi-tour. Il est revenu à son point de départ et il ne s'est pas du tout concentré sur le flocon d'avoine. Du coup, c'est un résultat totalement opposé à l'équipe numéro 1, à la boîte numéro 1, où il a préféré le flocon d'avoine. Alors que là, en numéro 2, il a préféré la carotte.
Et ensuite, donc, on avait une troisième boîte où là, dès le premier soir, donc dès quelques heures après, les deux blobs étaient à moitié chemin entre la carotte et le flocon d'avoine. Et le lendemain matin, le blob s'est plus facilement concentré sur la carotte que sur le flocon d'avoine. Mais après, ils ont tous les deux fait demi-tour. Et du coup, on a conclu que ni l'un ni l'autre n'avaient préféré la carotte et la betterave.
Le flocon d'avoine. C'est assez étonnant les résultats de cette expérience. Est-ce qu'on est satisfait ou on est un peu frustré quand même?
C'est sûr qu'au final, en fait, on s'est rendu compte que les blobs ils agissaient totalement différemment. Du coup, on n'a pas pu avoir réellement de statistiques là-dessus et de réels résultats s'ils préféraient la carotte ou le flocon d'avoine. Du coup, on a eu comme conclusion que chaque blob était totalement différent et qu'on ne pouvait jamais prévoir leur comportement et qu'ils ont peut-être une personnalité qui leur est propre.
Ok. Intéressant, comme les humains.
Oui, c'est ça.
Et puis du coup, ensuite, vous avez fait une dernière expérience. Vous avez forcé la rencontre entre deux souches différentes, l'une australienne et l'une américaine.
Ouais, c'est ça pour notre dernière expérience. Donc, il nous restait peu de temps pour la faire. Tout le monde y a participé. Enfin, les bénévoles. Enfin, entre guillemets, les volontaires et volontaires. Donc, pour ça, on a pris 9 boîtes de pré-tri pour les 9 participants. Et... on a coulé la gélose pour le support. Ensuite, on a coupé la gélose et on a créé un espace vide au milieu de la boîte, en forme de rectangle, pour éviter aux deux blobs en fait, de se rencontrer au milieu. Ça leur restait que deux choix possibles, soit se rencontrer en haut, soit en bas, soit pas se rencontrer. Donc, on a mis le blob américain à gauche et le blob australien à droite. Et un flocon d'avoine en haut. Ensuite, en bas, on n'a rien mis du tout. Et donc, on a pris des photos, etc. Et au bout d'une semaine, les résultats ont été un peu décevants, on va dire. Parce que du coup, je l'espère pour les résultats.
Du coup, on n'a pas eu de résultats. Il y a, sur les 9 blobs, il y a 8 blobs qui ne se sont pas du tout rencontrés. Et il y en a un où on a la vie un peu mitigée, parce qu'il semble avoir disparu. On l'a pas retrouvé dans la boîte.
Ah bon.
L'australien. Le blob australien, il semble complètement avoir disparu. Enfin, on le voit plus à la fin de l'expérience, on le voit plus dans la boîte. Et voilà.
Donc, pour les résultats, on pense que les blobs ne veulent pas se rencontrer. Mm-hmm. Et c'est juste une hypothèse. Parce qu'on a fait ça que sur 9 boîtes, et il faudrait en faire beaucoup plus pour vraiment avoir une hypothèse avérée.
Mm-hmm. Du coup, est-ce que celui qui a disparu, il aurait peut-être fusionné avec le deuxième ? Ou il se serait fait manger, peut-être ? Je sais pas.
On sait pas du tout, parce qu'on a eu ce cas qu'une fois, donc on ne peut vraiment rien conclure.
D'accord.
Parce que on avait les deux blobs sur une photo, et la photo suivante, la fois prochaine on les a vus, il y en a un qui était plus là, et à aucun moment on l'a vu se rapprocher.
D'accord.
Du coup, on ne sait pas ce qui est passé.
On ne sait vraiment pas du tout.
D'accord. Mystérieux.
C'est ça.
Mais après, c'est quand même décevant que aucun blob se rencontre, mais c'est comme ça.
Bon, c'était une expérience de toute façon, comme on l'a dit tout au long de cette émission. Il y a pas mal d'échecs.
Il y a eu plus d'échecs que de réussites.
Mais on a quand même pu, même sur les échecs, on peut en tirer certaines conclusions.
Ouais,
bien sûr. Et réadapter aussi.
Comme avec la viande. C'était en soi un échec puisqu'il n'est pas allé dessus, mais du coup on a eu comme conclusion qu'il n'aime pas la viande.
Mm-hmm. Mais c'est avec les échecs qu'on avance.
Exactement. C'est comme ça dans la vie. quel est votre ressenti par rapport à ce projet, à toutes ces expériences globalement, Élève ton blob et tout ce que vous avez pu faire après, c'est quelque chose qui vous a plu, j'imagine?
Oui, ça a été assez intéressant. Au début, on était donc avec le lycée de classe de seconde. On devait participer à... On s'était imposé, en fait. Et après, on a voulu continuer, nous neuf, pour faire nos propres expériences. Et c'était assez intéressant de pouvoir inventer des expériences qu'on voulait ou se mettre dans la peau d'un scientifique et d'obtenir ou pas des résultats et de voir qu'est-ce qu'on pouvait en tirer comme conclusion et réfléchir un peu vraiment comme un scientifique et trouver peut-être que ça nous servira plus tard si on veut, je sais pas, faire de la pharmacie ou j'en sais rien, un truc comme ça.
Les autres, votre ressenti par rapport à ce projet?
Ouais, c'était plutôt intéressant parce que déjà c'est un engagement et donc on s'est tous engagés, nous neuf. Et c'est vrai que le côté expérimental était plutôt pas mal parce qu'on a pu créer nos propres expériences, nos propres idées et les faire mettre en action. Et parce que pour le projet initial, c'était des expériences déjà programmées par les profs ou par le CNRS. Mmh. Donc là, c'était vraiment cool le côté expérimental.
Les autres ?
Moi, j'ai trouvé ça pareil que plutôt intéressant parce que quand on était avec les deux autres classes, on avait plus de la moitié des classes, ça se voyait qu'ils n'étaient pas très motivés de le faire. Et c'est aussi, c'était un peu, c'est pas hyper encourageant parce que tout ce qu'on devait faire, nous, c'était prendre des photos pour voir l'avancée du projet. Et là, on a pu, du coup, comme ils ont dit, faire nos propres expériences, créer des protocoles. Donc, c'était plutôt intéressant.
J'ai bien aimé aussi le côté créatif du projet, parce que ça nous permettait d'avoir beaucoup plus de liberté par rapport au cours habituel, où c'est vraiment assez strict, surtout au niveau de la science.
Oui.
Et c'était vraiment cool de faire ça à neuf avec nos professeurs.
Oui.
C'est sûr que là, on a eu beaucoup plus de liberté, comme les autres l'ont dit, et c'est vraiment ça qui m'a plu, parce que on pouvait vraiment faire notre projet et faire nos décisions à nous pour nous engager dans un projet qui nous plaît vraiment. Parce que le projet initial n'était pas vraiment enthousiasmant. Donc là, on était vraiment plus contents.
Dans l'idée, quand même, le projet initial, il fait rêver. Mais en fin de compte, si c'était pas...
C'est vrai qu'en fait, on était beaucoup plus enthousiasmés de faire nos propres projets que ceux des profs.
On tenait à remercier quand même Monsieur le maire et Madame Lachambre d'avoir proposé le projet pour nous. Et puis de cet engagement qu'ils nous ont donné et que, voilà, on a pu faire.
Oui, quelque chose de faire quelque chose d'assez inédit. C'est pas la première fois, c'est pas tous les jours qu'on va avoir un blob dans notre vie.
Et de passer à la radio.
Bah, merci beaucoup à tous les cinq.
Merci.
Merci à vous. Merci Titaïna, Pierre Collin, Clémentine et Alizé. Et puis merci aussi à vos camarades qui étaient là tout à l'heure, Maxime, Enzo, Ilan et Samuel. Et à vos profs que vous avez cités aussi tout à l'heure, qui ont mis ce projet en place et qui nous ont contactés aussi pour que vous puissiez en parler sur Radio Bulle. Parce que c'est vrai que c'est très intéressant comme projet. Et puis bah, je vous souhaite une bonne continuation. Et à bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Merci.
La quotidienne s'est terminée pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain pour une nouvelle émission à midi et 16h sur le 93.6. Passez une très belle journée à l'écoute de votre radio de la Genêt.
C'était La quotidienne sur Radio Bulle. Retrouvez le podcast de l'émission sur radiobulle.net. Radio Bulle, c'est votre radio de la Genêt.